Bonjour, Raymond Richard au micro. Pour ce tourne-page, je vous propose le livre de Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi qui s'intitule « Le monde a-t-il un sens ?» C'est édité chez Fayard. Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, cela renvoie à l'écologie. En cette année 2015, il y a beaucoup de raisons de s'intéresser à l'écologie. Première raison, on sait qu'à la fin de l'année, en France, se tient COP21, c'est-à-dire la rencontre internationale de tous ces savants du monde entier, de tous ces chercheurs, que la question du changement climatique interroge et qui voudraient, en discutant ensemble, trouver des solutions pour que ce changement climatique n'aille pas au-delà de 2 degrés. Ce qui est déjà beaucoup pour certaines régions du monde, puisque dans certaines régions du monde, la fonte des glaciers, l'élèvement du niveau de la mer oblige des sociétés à s'enfuir. Et je pense par exemple vers Jakarta. Quelques-uns se posent la question, faudra-t-il faire déménager la capitale? On voit combien ce changement climatique impacte nos sociétés. Donc c'est tout à fait intéressant de se poser la question, mais voyons, scientifiquement, est-ce que le monde a un sens? Et quel sens il a? Et s'il en a un? Et puis la deuxième raison pour les chrétiens, eh bien, c'est qu'il y a dans la doctrine sociale de l'Église cet ensemble de réflexions que l'Église nous propose de mener face au monde, une réflexion aussi sur l'environnement. Elle a été reprise par les papes successifs. Jean-Paul II, très soucieux d'environnement et qui était catastrophé par des atteintes faites au monde forestier qu'il avait pu visiter au cours de ses voyages. Benoît XVI, alors effectivement, on rit un peu de ces panneaux solaires au-dessus du Vatican, mais au-delà de ça, il demandait aux chrétiens de s'intéresser à l'environnement, parce que c'est bien dans cet environnement-là, dans cette création-là, que Dieu a placé l'homme. Et puis, on attend l'encyclique du pape François pour la fin du printemps, début de l'été. Donc, des bonnes raisons pour les chrétiens de s'intéresser à ces questions. Alors, revenons au livre de Jean-Marie Pelt. Lui-même est un biologiste. Et dans ce livre, il y a toute une première partie où il observe que dans les origines de la vie, il y a peut-être un sens. Alors, je feuillette avec vous le livre. Big Bang et avant. L'instant où tout commence. L'intérêt de ce livre, c'est que les notions d'antimatière, de conflits cosmiques, d'accélérateurs de particules, eh bien tout ça est rendu simple. Jean-Marie Pelt ne nous accable pas de sa science. Mais au contraire, il se fait un véritable pédagogue. Il parle en français. L'univers vieillit. Et 3 minutes après le temps T, il contient déjà les premiers noyaux de l'atome d'hydrogène, des protons, et de l'atome d'hélium, 2 protons et 2 neutrons. Tandis qu'il continue à grossir. Il évoque la température. Le temps passe. 300 000 ans après, la température est tombée à 3000 degrés. Bon. Et puis nous sommes maintenant à 380 000 ans après. La température est tombée en dessous de 3000 degrés. Et les photons, grains de lumière résultant du choc entre particules, c'est-à-dire entre matière et antimatière, profitent de la dédensification de l'univers pour irradier. L'univers entier s'embrase d'une lumière étincelante. Et ce que j'aime beaucoup dans cette page que je vous propose de lire, c'est page 31. Dans un discours célèbre, les preuves de l'existence de Dieu à la lumière de la science actuelle de la nature, le pape Pie XII voyait dans l'embrasement subit et aveuglant du jeune univers le fameux « que la lumière soit ». Alors, nous dit Jean-Marie Pelt, Jean-Jean Lemaître, c'est-à-dire le scientifique, n'apprécia pas ce court-circuit entre foi et science, entre Bible et astrophysique, et sollicita une audience du souverain pontife. Le grand physicien, dont la légende veut dire qu'il aimait d'autant plus ses étudiants que ceux-ci le chahutaient davantage, l'humour ne manque pas dans le livre de Jean-Marie Pelt, parvint à convaincre Pie XII de revenir sur un discours tendant à prouver l'existence de Dieu par concordance entre apport de la science et texte de la Genèse. Le Vatican ne semble pas lui en avoir tenu rigueur, puisqu'il fut bientôt nommé par Jean XXIII président de l'Académie pontificale des sciences. Et nous dit Jean-Marie Pelt dans ce chapitre qu'il intitule « Le bal des particules », cette anecdote illustre la complexité du débat entre science et foi. Allons un peu plus loin. Nous sommes à l'origine de la vie, l'invention de la sexualité. Soit par exemple une bactérie ayant acquis par mutation la résistance à un antibiotique dans un environnement où cet antibiotique est présent, la bactérie résistera, tandis que d'autres, dénuées de cette capacité de résistance, seront éliminées. En revanche, celles qui réussiront à s'accoler à la bactérie résistante pourront bénéficier de son gène et devenir résistantes. Mais à partir du moment où la cellule à noyau est inventée, son patrimoine génétique reste enfermé dans son noyau. C'en est terminé du libre-échange des gènes pratiqués par les bactéries. Donc on voit de façon imagée, vivante, comment s'organise la vie. Et à propos de la sexualité, ces échanges entre des mondes différents, l'homme et la femme, un principe et l'autre, la sexualité conduit à un formidable brassage des gènes avec apparition de toutes sortes de combinaisons nouvelles. Elle engendre à chaque génération des patrimoines génétiques nouveaux. Plus les combinaisons génétiques sont nombreuses et diverses, plus grandes sont les chances de résister à des crises environnementales, car il y aura toujours des biotypes capables de s'adapter et de franchir l'obstacle. Et nous dit-il, il n'en va pas de même pour les clones, c'est-à-dire ceux qui sont la réplication l'un de l'autre. Et ça nous renvoie à notre environnement. Donc, c'est véritablement une mine, ce livre, parce qu'il rend simple des choses complexes. Il parle des associations aussi, c'est-à-dire ces éléments du vivant qui vont s'associer. Alors, il y a ceux qui s'associent parce qu'ils se ressemblent, et il évoque les abeilles ou tel insecte. Mais il évoque aussi les symbioses, les rapports entre les plantes et les champignons, qui dans les sols leur fournissent les éléments minéraux dont elles ont besoin pour croître. Dans ces exemples, l'évolution tend à réduire l'agressivité, qui sans régulation entraînerait la nature dans le chaos en rompant ses équilibres. Donc il y a toute cette première partie qui est faite par Jean-Marie Pelt, qui rend simple et qui explique, et puis qui pose la question du sens. Chapitre 12, où ressurgit la question du sens. Plusieurs questions se posent, la première est d'ordre scientifique. Cette vision est-elle compatible avec les acquis de darwinisme? La réponse est oui. L'associativité est de par nature créatrice de nouveautés. Celles-ci sont soumises au tri de la sélection naturelle, au même titre que les variations dont on parlait à l'époque de Darwin. Donc il ne s'agit pas de l'un contre l'autre. Mais dit Jean-Marie Pelt, peut-être a-t-on eu tort de considérer la sélection naturelle comme l'unique moteur de l'évolution cosmique, biologique et humaine. Et il ajoute, cette question du sens n'a pas laissé indifférents penseurs et scientifiques. On se souvient de Jacques Monod dans Le hasard et la nécessité, qui nous évoque l'homme perdu dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Alors se pose la question de ce hasard. Plusieurs scientifiques sont évoqués et nous avons quelques références. Dans un ouvrage co-signé par 6 auteurs de langue française, hormis Xuan Tuan et moi, Jean-Marie Pelt, lequel en tant que croyant attribue la naissance de l'univers à un dieu créateur, 4 auteurs, dont Albert Jacquard, Henri Alton, Joël de Ronay, affirment tous penser que le monde s'était créé tout seul. De livre en livre, d'année en année, Joël de Ronay nous donne en particulier une vision du futur assez terrifiante, celui du règne des androïdes et des cyborgs, moitié hommes, moitié robots, appelés à peupler un monde parfaitement inhumain d'hommes-machines post-naturels. Mais, nous dit-il, notre manière de voir l'évolution de l'univers, l'univers a un sens, pourra-t-elle être enseignée demain à nos enfants dans les écoles et facultés ? Et il nous propose de regarder le monde avec des yeux qui permettent de prendre de la distance. Il assimile ce regard au regard d'une œuvre picturale. On ne regarde pas une œuvre picturale le nez sur la toile. Pour bien voir, il faut du recul. En se plaçant à bonne distance, on découvrira l'ensemble du dessin. et peut-être de surcroît, du dessin de l'auteur, ce qu'il a voulu exprimer. Et il nous renvoie à ce principe d'associativité. Il est assez singulier qu'il n'ait pas sauté aux yeux de la plupart des auteurs. Tous admettent le gain de complexité au fur et à mesure de l'évolution, cette associativité. Mais dans nos sociétés, nous dit-il, bercées par l'idée du non-sens, telle que la véhicule la plupart de nos penseurs contemporains, la question du sens a du mal à s'inviter au débat. Donc, il pose cette question du sens. Et puis, avec son ami Pierre Rabhi, il pose la question autrement. C'est-à-dire, ce monde dans lequel il y a un sens, eh bien, peut-être, il y a un avenir à lui trouver. Et un avenir à lui trouver dans le principe de coopération. Je cite Pierre Rabhi. Le principe de coopération m'a beaucoup conforté dans mon intuition de non-spécialiste et libéré de l'inexplicable gêne infligé par le précepte darwinien de la lutte des espèces. Il y a les optimistes pour lesquels le temps présent est une transition et les pessimistes pour lesquels tout semble perdu. Encore une fois, l'avenir sera ce que l'humanité voudra qu'il soit, sous l'égide de la vraie intelligence ou bien sous celle de l'ignorance travestie en intelligence. Ne pouvant avancer, je cite plus loin, une justification au phénomène humain, j'ai imaginé la planète Terre un peu dépitée se demandant « À quoi sert tous les prodiges que j'ai réalisés? À quoi sert ma beauté s'il n'y a personne pour l'admirer ?» C'est alors que la planète, son œuvre achevée, décide de créer l'humain. Alors, allez lire ces pages poétiques, ces pages qui amènent à réfléchir. Je cite un passage. Sommes-nous libérés comme le progrès nous en a fait la promesse? En observant les faits, il semble que ce soit le contraire. Les outils produits pour nous servir sont en réalité en train de nous asservir. Là aussi, il ouvre une réflexion, parce que souvent nous évoquons le principe de précaution, nous évoquons telle ou telle chose, mais dans nos machines, dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs, dans nos écrans, est-ce qu'il n'y a pas des changements de vie? Est-ce qu'il n'y a pas, dans ce réseau complexe qui nous permet de nous réunir l'un à l'autre, aussi matière à changer la vie et peut-être à être observé par l'autre? Et peut-être que ce n'est pas cela que nous voulons. Donc, il y a cette réflexion qu'il propose en nous disant, eh bien, est-ce que ces sciences, est-ce que ce sont des violations, des violences? Et il nous renvoie à l'écologie, qui ne se réduit pas, dit-il, à la seule compréhension des phénomènes de ce grand œuvre, mais qui nous propose. Nous avons personnellement tenté depuis 4 ou 5 décennies de doter notre propre existence de la cohérence à laquelle nous aspirons. Le respect de l'humain et le respect de la terre en sont les fleurons. Voilà. Eh bien, il y a beaucoup de pages qui nous évoquent cette question du sens, qui nous évoquent l'avenir pour l'humanité, qui renvoie aux petites choses anodines, mais peut-être avec aussi cette réflexion. À présent, vis ta vie, semble dire la mère poule à ses poussins. Quel avenir pour l'humanité? Eh bien, Pierre Rabhi nous propose de coopérer avec la vie. Donc, des perspectives qui sont les siennes, mais il propose de discuter, de réfléchir. Mais en tout cas, ce livre a au moins l'avantage d'être facile à lire, d'être accessible et de nous mettre en cohérence avec notre environnement. Je rappelle le livre, Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, Le monde a-t-il un sens? C'est édité chez Fayard. Bonne semaine à tous et surtout, bonne lecture.